Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonsoir à tous. Une centaine de salariés de l'enseigne McDonald's occupent un restaurant de la gare de l'Est à Paris et dénoncent mauvais traitements et de bien maigres rémunérations. Reportage de David Ravier. Manifestation de militants pro-vie dans les rues de Dublin, 13 jours d'un référendum qui devrait acter la fin de l'interdiction de l'IVG. Nous retrouverons dans la capitale irlandaise Julien Lagache. Nous nous rendrons également en Téhéran. L'Iran joue la carte diplomatique à tant beaucoup de Bruxelles après la dénonciation par les États-Unis de l'accord nucléaire. Et puis les électeurs irakiens, eux, attendent de leur classe politique de rompre avec corruption et clientélisme. Résultat des législatives attendues mardi. Conditions de travail inacceptables, salaire au plus bas, droit de la représentation du personnel détourné, ce sont là les têtes de chapitre de doléances accumulées par les salariés marseillais et parisiens de l'enseigne McDonald's qui ont décidé de lutter côte à côte cet après-midi à Paris. David Ravier, c'est tout un modèle McDo qui est questionné et combattu.
Réunis en assemblée générale, plus d'une centaine de salariés de McDonald's de la région parisienne et de Marseille réclament à leur direction de passer leur salaire du SMIC à 13 euros de l'heure et de bénéficier d'un 13e mois. À l'image d'Iliès, assistante direction du restaurant, qui a vu ses conditions de travail se dégrader au fil du temps pour un même salaire.
Aujourd'hui, le restaurant perd de l'argent parce qu'il est fermé. Le patron y perd de l'argent. On espère qu'ils réagissent, qu'ils se disent au lieu de perdre de l'argent comme ça, je les injecte dans mon effectif, le personnel, et j'aurai une meilleure performance de personnel en les rémunérant.
La plupart des McDonald's de l'Hexagone sont des franchises de moins de 50 salariés, ce qui rend difficile toute action syndicale. Mais dans leur lutte, les grévistes peuvent compter sur des salariés de la SNCF et des étudiants qui sont venus grossir les rangs. C'est le cas par exemple de Jaspal, étudiante et présidente de l'UNEF à l'Université Paris 1. Pour elle, le but, c'est de soutenir les salariés, mais également arriver à une convergence des luttes.
En tant que syndicat étudiant, défendre aujourd'hui les conditions de travail du premier employeur chez les jeunes, qui est incapable d'avoir des conditions complètement dignes pour ces travailleurs. Et d'un autre sens, c'est aussi, en tant que secteur en lutte, de soutenir les autres secteurs en lutte en ce moment face à cette société libérale qui réduit de plus en plus les droits des travailleurs et qui menace toute la société.
Pour les grévistes comme pour les étudiants, la prochaine étape, c'est de fédérer d'autres restaurants de la chaîne dans leur contestation, avec l'espoir que le mouvement devienne assez important pour que McDonald's de France accepte enfin de négocier avec eux.
Pierre-Henri, directeur général de France Terre d'Asile, appelle la ville de Paris et l'État à prendre langue et à prendre la mesure. Des conditions de vie, je cite, abominables des 2400 réfugiés sous tente dans trois camps de fortune. Deux hommes sont morts noyés en moins d'une semaine dans le nord de la capitale. C'est en Italie, à Assise, que la chancelière allemande a reçu la lampe de la paix de Saint-François, prix considéré comme le prix Nobel de la paix catholique. La chancelière allemande, distinguée pour son travail de réconciliation favorisant la coexistence pacifique entre les peuples, comprendre sa politique d'accueil de celles et ceux qui fuient guerre et dictature. Angela Merkel a profité de cette cérémonie pour dire sa préoccupation s'agissant de la situation en Ukraine. En Ukraine, où, je cite Angela Merkel, il y a chaque nuit des violations de la trêve et chaque jour des pertes humaines. Fin de citation. En Irlande, ultime mobilisation des militants pro-vie, soucieux de se compter avant un référendum le 25 mai qui risque fort de mettre un terme à l'interdiction constitutionnelle de l'avortement. L'IVG est actuellement passible d'une peine de 14 ans de prison et n'est autorisée, depuis 2013, qu'en cas de risque mortel pour la mère. Bonsoir Julien Lagache.
Bonsoir Mathieu.
Julien, vous avez suivi la manifestation des militants pro-vie à Dublin.
Oui, c'était l'occasion pour eux de battre leur appel une dernière fois. Eux qui croient en leur chance, ils sont convaincus en effet que la forte baisse du camp pro-choix dans les sondages peut s'accentuer et faire pencher la balance le jour du vote dans 13 jours. Alors il y a eu cet après-midi beaucoup d'encouragement à redoubler d'efforts dans cette dernière ligne droite de la campagne, à faire campagne pour cibler notamment les électeurs encore indécis. Il serait près de 1 sur 5 et pour eux c'est l'une des clés d'une victoire possible. Au micro, les orateurs ont été nombreux à défendre la spécificité irlandaise et ce fameux 8e amendement de la Constitution qui, selon eux, permet de sauver des vies. On entend d'ailleurs chez les militants une colère assez sourde contre les élites et notamment le gouvernement qui voudrait autoriser l'avortement jusqu'à 12 semaines si le oui l'emporte lors de ce référendum. Ce n'est pas à l'Irlande d'adopter la législation en vigueur dans les autres pays européens, ça devrait être l'inverse, disent-ils en substance. Un message relayé par des militants de tous âges, car les mouvements pro-vie veulent montrer qu'ils représentent toute la société. Les jeunes sont fortement mis en avant pour contrer l'argument notamment d'une jeunesse plus libérale et plus engagée. Quelques prêtres dans le cortège, mais aucun message religieux, sans doute pour éviter les inévitables critiques d'une emprise de l'Église sur la société irlandaise.
Merci à vous, Julien Lagache, en direct de Dublin. Les précisions de la Corée du Nord en prévision du sommet du 12 juin à Singapour avec le président des États-Unis. Le régime démantèlera entre les 23 et 25 mai son site d'essai atomique et invitera à l'occasion certains journalistes étrangers. Ce site est situé sous une montagne granitique de 2000 mètres d'altitude proche de la frontière chinoise et nul n'est à même de dire s'il est hors d'usage depuis bien longtemps, comme le laisse entendre Pyongyang. Pékin est la première escale diplomatique du ministre iranien des Affaires étrangères qui a pris le large sans tarder après l'annonce du retrait américain de l'accord nucléaire. Téhéran cherche en effet à consolider ses appuis à l'étranger. Après Pékin, Moscou, puis viendra le temps des rencontres avec ses homologues européens. Jawad Zarif est en effet attendu mardi à Bruxelles. Bonsoir Franck Madvon.
Bonsoir Mathieu.
Vous êtes avec Laurent Groux à Téhéran. Franck, les autorités iraniennes attendent beaucoup, beaucoup de l'Europe.
Oui, c'est vrai. Il faut savoir que la position iranienne est assez subtile. L'Iran ne veut pas passer pour responsable de l'échec de l'accord. Donc après le retrait du texte par Donald Trump, le président Rouhani s'est gardé d'annoncer à son tour une sortie immédiate. Mais Téhéran ne fera pas de nouvelles concessions. En fait, les Iraniens donnent quelques semaines à la Chine, à la Russie et surtout aux trois pays européens signataires, en effet, France, Allemagne, Royaume-Uni, pour sauver cet accord, pour compenser le rétablissement des sanctions américaines. C'est à eux de faire un effort. On sait que l'Europe étudie actuellement des mécanismes qui permettraient aux entreprises investissant en Iran de ne pas subir de sanctions. Les Iraniens sont partagés, les plus modérés continuent à faire confiance aux Européens, les conservateurs sont nettement plus sceptiques. Saad Mohammad Marandi est professeur à l'université de Téhéran. Il est proche du ministre des Affaires étrangères, Javad Zarif.
Je pense que les chances de survie de l'accord nucléaire sont très minces. Les États-Unis imposent leur volonté à l'Union européenne. Quand le président français a rendu visite à Trump, il a été humilié. Cette histoire avec les pellicules. Quand la chancelière allemande y est allée à son tour, elle est revenue les mains vides. Cela montre bien que les États-Unis se fichent de leurs alliés. Ils prennent des décisions et attendent d'eux qu'ils obéissent. Donc, j'en arrive à la conclusion que les chances de survie de l'accord sont très minces.
Et si la réponse européenne ne satisfait pas Téhéran, Mathieu, eh bien l'Iran sortira de l'accord et reprendra son programme nucléaire.
Merci à vous deux, Franck Madvon et Laurent Groux, en direct de Téhéran. Les bureaux de vote ont fermé il y a une heure en Irak, de Bassora à Souleymaniye, dans le triangle sunnite, comme dans les marais revigorés de Samarra. Premières élections législatives après la défaite de l'organisation État islamique, quand même à le souligner l'élite politique irakienne, ou bien un scrutin de plus. Qu'en attendre? Le taux de participation donnera la mesure du niveau de désaffection face à une classe politique au mieux impuissante, assurément corrompue. Les autorités ont d'ailleurs pris quelques précautions pour éviter les fraudes. Tous les bureaux sont équipés d'un système de vote électronique. Le reportage de Sami Bourelfa et Richard Rifonou.
Un boîtier bleu, un écran tactile, un lecteur de cartes et un scanner d'empreintes digitales. Mostafa Sahab est le responsable du vote électronique dans le quartier de Mansour à Bagdad. Pour lui, c'est un premier pas vers la modernité dans un pays en reconstruction.
Regardez, il suffit de mettre la pièce d'identité ici et les données personnelles de l'électeur apparaissent. Regardez ce qui s'affiche. Cette personne a le droit de voter. Madame, mettez l'index de votre main gauche ici. Voilà, prenez un bulletin et allez dans l'isoloir.
Le bout du doigt noirci par l'encre, c'est la preuve du vote. Ali Hussein est séduit par ce nouveau système.
Voter, c'est un devoir. Nous le faisons pour l'Irak. Et le vote électronique, c'est tellement plus simple. Les Irakiens doivent se mobiliser pour l'avenir de leur pays. C'est important. Ce vote va nous ouvrir les portes du changement. Nous voulons voir de nouveaux visages à la tête du pays.
Pourtant, à l'extérieur du bureau, tous ne peuvent pas en dire autant. Le jeune Karim Hamdallah a été refoulé.
Voilà ma pièce d'identité. À l'intérieur, ils me disent « Ton nom n'est pas sur nos fichiers. Les autorités doivent corriger ça. »
Finalement, le jeune homme repart, déçu. Comme beaucoup d'Irakiens, il attendait impatiemment ce rendez-vous électoral, considéré comme un tournant pour l'Irak.
Les très grandes lignes météo de demain dimanche, temps marqué par des pluies parfois orageuses et intenses sur une grande partie du pays, appel à la vigilance orange neige sur les départements de l'Ardèche, du Cantal, de la Haute-Loire et de la Lozère. Cette édition a été préparée avec Caroline Beneteau, à la technique Pierrick Monsigny.